Salut à tous, bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée et nous enregistrons l'épisode 6. Nous sommes le 2 décembre 2014, il commence sacrément à faire froid, donc je vous propose tout simplement qu'on se réchauffe et qu'on se réchauffe avec des bonnes news qui nous réchauffent l'esprit, des news tech, le sujet qu'on aime tant, axé évidemment sur les usages, sur la consommation qu'on peut faire aujourd'hui de la tech, que ce soit chez nous ou en mobilité. Petit teasing, si je vous dis chez nous, on va un petit peu voir pourquoi en détail, mais avant tout, bonsoir Guillaume, fidèle parmi les fidèles, comment vas-tu ?
Ben, ça va, donc quand tu disais très chauffé, tu parlais pas de chaleureux, mais non, ça va. C'est pas...
Non, de chaleur intellectuelle, non, parce que concrètement il fait froid, faut monter les chauffages, c'est pas plus compliqué que ça, faut monter le thermostat Nest si jamais vous êtes équipé, petit chanceux. Nous accueillons ce soir une nouvelle voix que vous avez pas eu l'occasion d'écouter, d'entendre, pardon, dans Tech Café, mais en tout cas un prénom et un nom vous avez probablement déjà vu passer, notamment à travers les différents commentaires des différents podcasts. Bonsoir Jean-Philippe Pancos.
Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, quel teasing.
N'est-ce pas. Donc voilà, si on veut parler aussi de la tech de l'intérieur, je pense qu'il sera temps effectivement qu'on puisse en discuter ensemble. On a parlé à plusieurs reprises dans des podcasts de domotique, et puis à chaque fois on nous dit il faut inviter Jean-Philippe Pancos. Eh ben ce sera fait désormais, puisque tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus de domotique. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, tout simplement, Jean-Philippe?
Alors, que dire ? Bah, je suis un geek de la première heure. J'ai commencé l'informatique à 9 ans et je travaillais dans les technologies web pendant 15 ans en fait. Donc, je suis plutôt informaticien qu'électronicien ou domoticien. Mmh. Et j'ai eu donc la chance de voir évoluer toutes les technologies web à partir des années 2000. Et en fait, est arrivé l'Internet des objets avec des nouvelles technos, des nouveaux usages et une nouvelle vague en fait d'innovation. Et donc j'ai décidé de me former à ce truc-là et à développer un petit projet il y a quelques années qui s'appelle Sara et qui a comme ambition de fournir une plateforme pour connecter tous les objets de la maison et surtout d'apprendre des usages de ces nouvelles formes d'interaction avec la maison. Et voilà, et puis depuis j'essaye de m'y consacrer de plus en plus.
C'est chouette. Alors, il y a de nombreuses personnes hein, qui utilisent Sara. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur alors Sara en tant que telle, concrètement, si demain ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai envie d'installer ça chez moi, comment je m'y prends concrètement ?
Alors, pour installer, en fait, c'est très simple. Il suffit d'aller sur encause.net et d'aller voir Sara, l'onglet, télécharger, dézipper le fichier et puis lancer un client et un serveur.
C'est super simple. C'est comme installer Plex, quoi, grosso modo.
Voilà. Alors ça, c'est la première étape. Le principe étant que le client, c'est un programme Windows qui va utiliser le microphone pour écouter les paroles qu'on va dire. Et le serveur, c'est un serveur, alors je peux peut-être parler un peu technique, un serveur web qui va recevoir des commandes du client et qui va exécuter des commandes et des petits plugins que l'on peut télécharger en ligne pour connecter les différents objets. Alors, petit détail, je dis souvent, ce n'est pas un produit, c'est un framework. C'est-à-dire qu'il y a une petite phase d'apprentissage et de bidouillage parce que les usages des gens sont toujours différents, chacun a des objets connectés différents. Et du coup, il y a toujours une petite phase d'adaptation, mais il y a une communauté qui est très réactive derrière. Et donc, il y a une forme d'entraide.
Alors, je suis sûr que tu vas trouver ça peut-être très imparfait. Est-ce que, de manière très caricaturale, je peux dire que... tu vas me taper. On pourrait dire que c'est un mix intelligent entre le OK Google et Kinect. Est-ce qu'on peut dire ça ou je dis des grosses bêtises ? En sachant qu'évidemment là je te parle de produits finis, je compare effectivement Sara à des produits de consommation qu'on a tous les uns les autres peut-être au quotidien, là il s'agit comme tu le dis d'un environnement plus de développement de différents éléments, mais est-ce que la comparaison tient ou pas du tout ?
Sur la partie cliente, oui, c'est un OK Google ou un Siri, mais adapté à la maison, donc qui va exécuter des commandes sur des objets connectés. C'est déjà possible avec un téléphone. La différence, c'est que dans une pièce, on va plutôt utiliser un Kinect pour être capable de parler à plusieurs mètres à la machine.
Ok, écoute, c'est super clair. Alors évidemment, on va en parler un petit peu en filigrane dans cette émission de tous ces équipements, des objets connectés. Rapidement, est-ce que tu peux nous faire un petit clin d'œil sur deux projets que tu as en présentation, enfin que tu as relayé sur ton blog, des projets hyper concrets pour un peu avoir un aperçu aussi des différentes choses que tu peux être capable de faire?
En fait, effectivement, Sarah, c'est un projet que j'avais en tête depuis 2008 et du coup, je me suis dit, quand les technos étaient là, tiens, si je commence à le développer. Et puis, j'ai vu que les gens étaient intéressés. J'aime bien mettre en ligne mes sources et du coup, les gens se sont amusés. Dans le même esprit, je me suis dit, ce serait vachement bien d'avoir une espèce de table connectée sur laquelle on pourrait faire du multi-touch, donc avoir une espèce de tablette géante sur sa table de salon. Et j'ai essayé de le faire. Je décris ça sur mon site. En fait, c'est vraiment très simple. C'est une télé à l'horizontale posée sur une table qui a un gros trou au centre pour justement que la table s'aligne parfaitement. Et après, une fois qu'on a monté le truc, ce qui est assez simple, il faut inventer les usages d'une table connectée parce que ce qu'on voit en termes d'ergonomie, tout change. Donc voilà. Le deuxième projet dont j'ai parlé aussi, c'était une expérimentation aussi, c'était un miroir intelligent. En ce moment, on en entend parler pas mal. L'idée, c'est d'avoir un miroir et derrière un miroir sans teint et derrière le miroir, avoir une interface homme-machine, un écran de tablette pour afficher de l'information. Et puis après, on peut imaginer plein d'autres choses et inventer plein d'autres choses.
Bon, c'est vraiment des objets, des projets que je vous invite à aller découvrir. Vous avez évidemment les liens dans les notes d'émission. Je pense que en quelques mots, en quelques minutes, Jean-Philippe, ceux qui ne te connaissaient pas commencent à entreapercevoir ce que tu fais, en tout cas quelles sont les choses qui te passionne, on va dire. Donc, on va rentrer tout de suite dans les news de Tech Café. Évidemment, tu interviens quand tu veux. Alors, en plus, petit aparté, Jean-Philippe a alimenté le document de l'émission avec plein de news en plus. Donc, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer pour cet épisode. On va commencer tout de suite avec une petite news que j'ai vue passer sur The Verge qui concerne. Truc qui pour moi, je croyais que c'était la chasse gardée de Google parce que ça me semblait trop incroyable d'imaginer qu'un jour un tel projet arriverait. Vous savez, c'est le fameux projet ARA de Google qui vise à proposer des téléphones modulaires. Donc grosso modo, c'est vous avez un socle, on en a déjà parlé hein, dans Tech Café, c'est un socle dans lequel vous rajoutez différents éléments et puis vous composez le smartphone sur mesure, à la carte, j'allais dire, avec le processeur que vous voulez, l'appareil photo que vous voulez, et puis vous pouvez le faire évoluer dans le temps. Et il y a un nouveau projet donc qui est arrivé, que j'ai vu passer, donc je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, d'une boîte qu'on ne connaît un peu ni d'Ève ni d'Adam, mais il s'agit du Puzzle Phone. L'idée, elle est la même que le projet ARA, c'est d'avoir un socle, une espèce de socle commun au smartphone qui propose évidemment l'écran et puis la grande partie de la coque du téléphone. Et puis après, on peut brancher différents éléments, dont notamment deux éléments. Un qui va être constitué principalement de la batterie et puis toute l'électronique un peu secondaire, de tous les composants secondaires qu'on peut avoir. Et puis l'autre partie qui va abriter le processeur et l'appareil photo. Moi, je ne pensais pas qu'il allait y avoir d'autres projets que le projet de Google sur ce sujet. Tu l'as vu passer, Guillaume, ce sujet? Est-ce que ça te parle?
Oui, moi ça me parle. Enfin, le projet ARA, je trouve ça plutôt sympa, plutôt innovant comme truc et plutôt écologique, hein, c'est pas mal. Après, disons que je trouve pas vraiment que le Puzzle Phone, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle apparemment, apporte vraiment énormément de trucs par rapport au projet ARA. Hein. Et en fait, il simplifie finalement le truc, puisqu'il n'y a plus qu'il y a que trois éléments. En fait, hein. Il y a le corps du téléphone, effectivement, et la batterie qui est interchangeable, et le module caméra et processeur. Bon, pourquoi pas? Ça simplifie un petit peu le projet ARA, mais finalement, j'ai l'impression que tout est un petit peu. Enfin, je sais pas, est-ce que par exemple, on peut utiliser un module processeur sur. Si on veut changer de taille d'écran, par exemple, est-ce qu'on peut garder son module processeur? Apparemment, oui. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais c'est un peu redondant avec le projet ARA. Ça paraît un petit peu plus limité en termes de customisation. Bon, à voir, je sais pas, mais en tous les cas, bon, ces initiatives sont pas idiotes. Même si au niveau marché, je ne sais pas si c'est vraiment un truc que les grands constructeurs vont suivre, mais bon. On verra.
On verra. En tout cas, ça s'annonce pour mi-2015. Ce sera plutôt dans des tarifs moyens de gamme. Il y aura trois tailles différentes. Est-ce que toi, Jean-Philippe, de ton côté, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, les téléphones modulaires en général? Et plus précisément, est-ce que tu crois en ce projet de Puzzle Phone? Est-ce qu'il y a une place pour ça?
Enfin, je suis d'accord avec Guillaume, c'est-à-dire que Puzzle Phone, j'y crois pas trop, parce que c'est beaucoup plus simple que Ara. Ara, c'est beaucoup plus puissant. Maintenant, l'enjeu, c'est, comme toujours, ça va être les standards. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Google fait ce genre de choses, c'est bien, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et il faut que l'overhead pour l'évolution des technologies n'impacte pas le téléphone. Donc, bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais c'est intéressant.
C'est intéressant de voir qu'il y a de la concurrence en tout cas, et il y en a qui ont on va dire des coucougnettes pour lancer ce genre de sujet. Évolution des smartphones, on la voit se profiler. On a vu quelque chose en tout cas se profiler cette année, je trouve, qui m'a particulièrement marqué, c'est l'augmentation moyenne de la taille d'écran des smartphones, et ça a même touché, vous le savez désormais, les iPhones qui proposent désormais avec l'iPhone 6 Plus des tailles d'écran de 5,5 pouces. Donc des tailles d'écran qui évoluent énormément, et on pourrait se dire, nous qui, vous le savez, sommes assez passionnés par les usages notamment des tablettes. Mais qu'est-ce qu'il en est de nos tablettes justement? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu devenu redondant d'utiliser des tablettes à côté de smartphones qui grandissent de jour en jour? Et nos copains de chez Pocket, donc vous savez, hein, l'appli Pocket, c'est quelque chose dont je parle souvent dans les podcasts. C'est cette petite application qui vous permet de bookmarker un article quand vous naviguez sur Internet et de le lire plus tard offline avec une maquette épurée sur votre smartphone, votre tablette ou même sur ordinateur. Sans avoir donc besoin de connexion, vous pouvez lire ça dans le métro, les articles que vous avez collectés dans la journée. Et nos amis de chez Pocket ont utilisé un petit peu les usages de leurs applications pour tirer quelques data, tout simplement. Alors c'est très, vous allez voir, c'est très Apple-centrique, hein, on n'a pas plus d'informations sur Android. En tout cas, ils ont comparé trois types d'usages. Un usage de personnes qui détiennent un iPhone 5S et un iPad, d'autres qui ont un iPhone 6 et un iPad, et d'autres qui ont un iPhone 6 Plus et un iPad. Vous avez compris, ce qui est intéressant, c'est le couple iPad avec taille d'écran du smartphone. Et il s'avère que dans le premier cas, donc l'iPhone 5S utilisé avec un iPad, les gens lisent leurs articles sur Pocket à 55% sur iPhone, donc à peu près équilibré, les gens passent à peu près autant de temps à lire sur tablette que sur leur smartphone. Sur iPhone 6 et iPhone 6 Plus, la tendance est complètement différente, puisque on atteint 72% du temps passé sur iPhone 6 versus 28% sur l'iPad, et même pour l'iPhone 6 Plus, 80% du temps passé à la lecture sur Pocket versus 20% sur iPad. En gros, ce que tend à démontrer Pocket, c'est que avoir un iPhone 6 Plus, c'est relativement redondant avec un iPad, et qu'on tend à délaisser l'iPad. Alors, attention, malgré tout, ça reste des valeurs relatives. Donc, si ça se trouve, le temps passé sur l'iPad est le même, c'est juste le temps passé sur le smartphone qui explose, hein. Il nous manque encore cette donnée du temps passé. Malgré tout, c'est une tendance. Jean-Philippe, toi, cette augmentation des smartphones, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu te l'es approprié? Et est-ce que tu trouves que, du coup, demain, les tablettes auront plus vraiment de sens et qu'on va tous avoir des smartphones de taille gigantesque?
Ouais, je suis assez d'accord. En fait, deux points intéressants. Le premier, c'est que j'avais rencontré une personne dans un meet-up qui avait un téléphone minuscule. Et il me disait, bon, moi, j'utilise juste pour téléphoner. C'est tout petit.
Oh, le ringard! Il
la taille d'un
téléphone avec son
briquet.
téléphone.
Et l'autre côté, il avait une tablette pour surfer. Et plus récemment, j'ai fait l'acquisition d'une tablette Android 7 pouces à 65 €. Et j'étais bluffé de la rapidité et de la simplicité de lecture avec du 7 pouces. Et du coup, effectivement, je crois à une évolution du mobile qui sera vraiment deux éléments distincts, un petit, un grand, ou un gros élément. Maintenant, tout ce qui est news, etc., je regarde ça sur The Old Reader, sur un PC desktop. Généralement, j'ai besoin d'ouvrir plein d'onglets, plein de choses, et du coup, je peux pas m'empêcher.
Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses et dans quel cas te situes-tu, toi?
Non, mais moi j'utilise trop de trucs. Moi j'utilise trois PC, deux tablettes, un téléphone, c'est n'importe quoi. Non, mais moi je suis pas représentatif, je pense pas. Par contre, c'est une étude qui ferait plaisir à Pod, hein, lui qui est anti-tablette et pro-smartphone, plus ou moins.
Oui, je pense
Je
qu'effectivement
crois
ça
que.
achèverait. Ça lui donnerait du grain à moudre, effectivement. Enfin, pas du
Ouais,
grain, mais ça donnerait des arguments.
effectivement, ouais.
Le point en tout cas à souligner, c'est que passé 9h, bah, visiblement, l'iPad bat tout. Hein, passé 9h, il semblerait que ce soit un horaire, l'horaire du coucher, du soir, où on délaisse son smartphone et qu'on utilise plus sa tablette.
Mais je pense que ça va dépendre beaucoup du contenu aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a des contenus qui sont bien adaptés à la lecture sur petit écran, c'est-à-dire par exemple des news assez simples ou alors des textes qui sont bien formatés, qui passent bien sur le petit écran, ça pose pas de problème. Mais il y a quand même encore pas mal de sites web ou de contenus qui bénéficient d'un écran vraiment plus grand, quoi, comme certains jeux ou des vidéos. Enfin, il y a quand même un confort supplémentaire à avoir du 10 ou du 8 pouces par rapport à du 6 pouces ou du 5 pouces, quoi. Enfin, je trouve. Hein.
Ou sinon, à 9h, il n'y a plus de batterie aussi.
Oui, c'est possible.
Aussi, exactement. Il faut avoir plusieurs trucs, parce qu'il y a plusieurs batteries, ouais.
Mais c'est vrai que par contre, en termes de, pour le coup, de production, on en a parlé, hein, c'est une tendance qu'on voit un petit peu se dessiner. La production sur iPad, ça commence à devenir à peu près jouable, à défaut d'être totalement satisfaisant versus un PC. Ça commence à devenir quelque chose de jouable. Et moi, aujourd'hui, typiquement, il y a certains usages que je fais sur la tablette que je suis incapable de faire sur le smartphone. Le dessin, la prise de notes avec un stylet, et puis l'immersion qu'on peut avoir dans des jeux, ça a quand même rien à voir. Mais on sent quand même les choses évoluer. On suivra ça ensemble. Autre chose qui évolue, c'est quand même l'intelligence de la technologie. Vous savez, hein, si vous allez sur Google Images, vous pouvez taper quelques mots-clés et avoir des images qui vont ressortir, qui vont correspondre à vos mots-clés. Mais ça reste relativement limité et surtout, c'est basé sur de l'indexation avec les informations qu'on va associer à l'image manuellement quand on va les mettre en ligne sur un site web. Et c'est là où il y a une belle trouvaille qui a été faite de la part de l'université de Stanford en partenariat avec Google, qui ont imaginé un logiciel qui est capable de s'approprier une série d'images. Hein, on va lui diffuser 100 000 images avec des mots-clés associés. Et il va être après capable, lui, de reconnaître dans une image quels sont les éléments qui constituent cette image sur la base, évidemment, de l'apprentissage qu'il a fait. Donc, je tire la news du site de Corben, mais j'imagine que les illustrations ont été un petit peu diffusées partout. On vous mettra, évidemment, là encore, les articles dans les notes de l'émission. Mais l'exemple, il est de cette superbe tenniswoman en plein soleil. Effectivement, le logiciel est capable de comprendre que c'est une femme dans une robe blanche qui est debout avec une raquette de tennis, avec deux personnes deux personnes derrière elle. Je trouve ça assez bluffant et je trouve qu'effectivement il y a des belles applications à imaginer, notamment sur l'accessibilité. Est-ce que on est à l'aube de l'ère où on n'aura plus besoin de saisir des haltes d'images quand on met en ligne une page web pour notamment l'accessibilité? Jean-Philippe, toi qui connais bien les technos du web, est-ce que tu trouves que c'est une belle évolution ou est-ce que...
Alors, tout ce qui est computer vision, c'est vraiment une techno à suivre en ce moment, qui est vraiment en train d'évoluer énormément. J'ai essayé d'en mettre un petit peu dans Sarah pour faire la reconnaissance faciale, par exemple, et je voulais justement mettre de la reconnaissance d'objets. Actuellement, il y a deux vraies technos qui existent. Une première techno où on fait apprendre des milliers d'images, à partir de milliers d'images, un objet, une banane par exemple, et après il est capable d'apprendre, retrouver dans les images ce qu'est une banane, mais il faut plusieurs semaines pour lui faire apprendre avec une machine standard. Ensuite, il y a tout ce qui est détection de fonctionnalités, de features, et c'est ce qu'utilise cet algorithme en essayant de détecter les points qui pourraient représenter une banane. Alors c'est moins précis, mais ça permet plus facilement de retrouver rapidement des éléments. Là où c'est bluffant, c'est que visiblement dans l'article, ils sont capables d'en détecter plusieurs éléments dans une image. Alors une image fixe, c'est simple, une vidéo, c'est plus compliqué. Après, il faut savoir que les ingénieurs de Google ne sont plus capables, avec leur système, de comprendre comment ils fonctionnent. La partie détection, reconnaissance d'image est tellement poussée et tellement intelligente qu'ils ne sont plus capables de comprendre l'algorithme. Donc c'est assez inquiétant et en même temps bluffant, parce que dans l'avenir, on peut imaginer que Google, qui utilise Dropcam dans les foyers et qui est capable de faire de l'analyse d'image, On peut imaginer plein de choses.
Ça commence à devenir sacrément flippant. Il me semble que c'était toi, Guillaume, qui nous avait déjà parlé de cette histoire de banane reconnue, si je ne me trompe pas.
Oui, bah c'était ça, hein, c'était ce truc-là. En fait, les mecs de chez Google utilisent des technos qui sont, comment dire, pour faire ce genre de truc, ils mélangent deux technos, en fait. C'est-à-dire, ils mélangent une technologie de reconnaissance d'image avec des réseaux de neurones profonds en convolution, qui sont des réseaux de neurones qui vont regarder les images et qui sont faits pour les classifier. C'est-à-dire, effectivement, c'est des réseaux qui sont typiquement utilisés pour la reconnaissance et la classification d'objets, la segmentation d'images et ce truc-là. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, ils ont aussi d'autres types de réseaux neuronaux qu'ils utilisent pour la traduction simultanée. Et Google traduit un texte en français en utilisant un langage intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils vont traduire une phrase en français, comme une espèce de champ de vecteur, enfin comme un point dans une espèce de champ de vecteur, à très très haute dimension. Donc ils vont transformer ça en vecteur en quelque sorte. Donc c'est une sorte de langage abstrait. Et ce vecteur va être repéré par un réseau de neurones et retraduit dans une autre langue. Par exemple en allemand, en chinois, en japonais, en n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'ils font leur traduction, que fonctionne Google Translate, je crois. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le premier, la première, enfin le gros morceau finalement de la reconnaissance d'image, c'est-à-dire le réseau neuronal pour lequel on envoie l'image en input, et au back-end, c'est-à-dire au lieu d'avoir un moteur de reconnaissance, de classification d'objets, ils mettent le générateur de langage, c'est-à-dire que finalement, le vecteur qui est censé être le langage intermédiaire, qui est censé être généré par une phrase en traduction simultanée, ben là c'est l'image, c'est le résultat du processing de l'image, et ensuite, ce vecteur-là va être traduit en phrase. Et donc cette phrase, au lieu d'être la traduction d'une autre phrase dans une autre langue, ce sera la traduction de l'image en français. En fait, il fait de la traduction image français, pas image anglais en l'occurrence. Mais et donc c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment assez incroyable. C'est d'une précision qui est assez fabuleuse. Hein. Et le truc peut reconnaître, par exemple, parmi les images qu'il a reconnues. Il reconnaît par exemple un groupe de jeunes qui jouent au frisbee. Il reconnaît une personne qui fait de la moto sur une route sale, sur une route de terre. Il reconnaît une horde d'éléphants qui marche sur un champ, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il peut aussi complètement se planter, bien entendu. Donc c'est les réseaux de neurones sont tous entraînés, hein, ils peuvent aussi faire des erreurs, et donc il y a des fois ils sont complètement à côté, quoi. Ou alors des fois ils n'arrivent pas bien à compter, ou il n'y a pas de miracle, hein. Par exemple, il y a une photo d'un chat qui est sur un lit. Là, l'ordinateur a reconnu un chat noir qui est sur un canapé, alors qu'en fait c'est sur un lit. Bon, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est quand même vraiment très 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 impressionnant. Et effectivement, ça augure bien de ce que pourront faire les robots et les appareils intelligents dans le futur, ouais. C'est super. Enfin, c'est pas flippant, je trouve pas ça flippant, je trouve ça super génial en fait.
Bah, c'est les usages potentiels qui sont flippants, c'est comme tout, hein. Quand on a des belles innovations technologiques, c'est les usages qui en sont faits qui peuvent être flippants.
Et la nouveauté de 2014, juste pour compléter, c'est que là on a ça sur des images statiques, mais l'avenir c'est sur la vidéo, donc 30 images par seconde. Et donc il y a des algorithmes qui sont développés, qui sont sortis cette année, pour suivre d'une image à l'autre un objet en mouvement. Typiquement pour pas refaire le calcul ou essayer de comprendre le contexte ou quand l'objet est en train de tourner, le voir sous différents angles et donc avec un ensemble d'images, mieux comprendre l'objet.
Une banane qui vole, par exemple.
Par exemple.
Non, c'est impressionnant. C'est vraiment des très belles époques qu'on vit avec des très belles évolutions. Il y a des sujets qui évoluent aussi cette année. On fait un petit peu le tour, j'ai l'impression, des choses qui ont évolué cette année. Et il y a un truc qu'on a tous vu passer, c'est les montres. Alors, il y a des modèles que certains attendent encore, hein, qui arriveront en 2015, d'autres qui profitent de tous les modèles d'Android Wear qui sont sortis. Il y a les personnes qui, depuis de longue date, utilisent des montres de type Pebble. Suivez mon regard, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Et on a des, je sais pas, des trublions de la montre qui ont eu envie de surfer sans doute sur cette innovation pour proposer des montres un petit peu différentes. Et vous irez voir dans les notes de l'émission, mais il s'agit d'une montre particulièrement différente, assez simple, relativement élégante, je trouve, on aime ou on n'aime pas, hein. Et c'est une montre de Sony qui nous propose quand même plein de produits différents, y compris celui-ci. Et la particularité de cette montre qu'ils vont nous proposer, c'est qu'elle est faite entièrement de e-paper, à la fois sur le cadran et sur le bracelet. Donc il faut vous imaginer une montre ben, un peu plastique, hein, comme vous avez l'habitude d'en connaître, sauf que un coup elle va être blanche, un coup elle va être noire, un coup elle va avoir des aiguilles d'une certaine manière, un coup une aiguille d'une autre manière, et vous allez pouvoir changer le design simplement en appuyant le bouton. Il y a un côté un petit peu what the fuck quand on regarde la vidéo, un truc un petit peu déroutant. On n'arrive pas à savoir si c'est une belle prouesse technologique ou si c'est un truc complètement bizarre que personne ne va vouloir. Ça a l'air très fin, c'est pas intelligent du tout, hein, c'est pas une smartwatch au sens propre du terme, c'est vraiment une montre, c'est pas intelligent du tout. C'est une utilisation poussée de la technologie de e-paper, vous savez, c'est ces technologies d'écran qu'on retrouve dans les liseuses, Kindle, etc. 60 jours d'autonomie. Messieurs, est-ce que ça vous tenterait d'avoir ça au pied de votre sapin, Jean-Philippe? Est-ce que ça te tenterait d'avoir cette montre-là? Ou est-ce que tu te verrais l'offrir à ton entourage au pied du sapin pour Noël?
Bah, je reste un peu dubitatif. En fait, j'ai la Peeble. Donc la Peeble, c'est du e-ink qui était vraiment intéressante pour l'autonomie et puis pour c'était la première. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, plus récemment, j'ai la Moto 360 qui là pour le coup a un écran absolument bluffant par les couleurs et puis la réactivité. Du coup, Sony se place très bien entre les deux. Avec une approche innovante, et je crois qu'ils ont lancé le projet au début, ils n'ont pas dit qu'ils étaient Sony, ouais, pour un petit peu voir le retour du public, et je pense que c'est plutôt un proof of concept pour voir ce qu'on peut faire avec du e-paper sur des surfaces de plus en plus grandes, et du coup à acheter, je suis pas convaincu, parce que pour une montre, ce qui est important aussi, c'est la communauté qu'il y a derrière, mais par contre en tant que démo technologique, je trouve ça super intéressant.
T'as raison, c'est marrant ce que tu soulignes. Effectivement, ils ont pas sorti en tant que Sony. Hein. Ils sont sortis en tant que Fashion Entertainment, enfin FES Watch. Et donc, du coup, tu te demandais ce que c'était. Et puis, c'est après coup, hein, quand ils ont dit que c'était eux. Je crois qu'il y a une histoire de crowdfunding aussi derrière. Pourquoi pas un proof of concept, effectivement, avec ils attendent de voir s'ils vont pas nous sortir des nœuds papillons, des accessoires pour les chaussures, pour les chapeaux en e-paper. Guillaume, tu te vois demain sortir avec ton chapeau en e-paper ou pas?
Moi non, parce que je suis pas trop fashion victime, mais je pense qu'il pourrait y avoir un public pour ça. Ouais. C'est-à-dire que globalement, là, c'est juste un concept, et le concept, il est tout bête, hein, c'est la technologie appliquée à la mode. Du coup, on peut utiliser effectivement l'e-paper, mais effectivement aussi peut-être d'autres types d'écrans souples à l'avenir pour customiser ses vêtements. Là, il y avait par exemple, dans la vidéo, il y avait un exemple assez caractéristique où il y avait une femme qui cherchait donc comment elle allait décorer ses lunettes aujourd'hui. Donc elle cherchait sur son iPhone, et par NFC elle les posait sur ses lunettes, et ses lunettes adoptaient immédiatement le motif qu'elle avait choisi sur son téléphone. C'est complètement futile, mais c'est la mode. Enfin, je veux dire, c'est le genre de truc qui peut quand même trouver effectivement un public, et les technologies commencent à devenir, alors peut-être pas encore tout à fait, mais elles vont bientôt devenir suffisamment matures pour pouvoir être portées et pouvoir être utilisées dans un but purement esthétique, oui, je pense.
Je trouve ça marrant, bon, en tout cas. Bon, il faudra suivre, en tout cas, il faudra regarder. La mode et la tech, c'est notamment, évidemment, des montres, mais il y a un accessoire qu'on a tous suivi, et on a tous été ébahis de voir ce genre d'initiative, c'est évidemment les Google Glass. Et puis, ces derniers temps, quand on suit un peu les sites de news, on commence à se rendre compte que les Google Glass, visiblement, ça sent le roussi, hein. Il semblerait que ça disparaisse, que ce soit pas voué à perdurer énormément. Et puis, en fait, ces derniers jours, là, paf, on voit des nouvelles news et des rumeurs qui commencent à arriver, qui nous diraient que non, des Google Glass, c'est pas mort, ça va revenir en 2015, et surtout ça va revenir dans des partenariats avec Intel. J'ai envie de te laisser un petit peu la parole, Guillaume, en introduisant comme ça la chronique des composants, pour que tu nous en dises peut-être un peu plus.
De toute façon, les Google Glass, faut quand même le dire, hein. Je pense que vous en doutiez, mais mon opinion sur les Google Glass, elle semble simple. Les Google Glass, ça pue, ça sert à que dalle. Parce que c'est absolument ringardisé par les montres connectées qui font absolument tout.
Il y a
tout.
Des usages professionnels quand même, non? Peut-être qu'on peut imaginer,
oui,
les chauffeurs
de
taxi, les médecins...
À la SNCF, par exemple? Non, franchement, la SNCF a essayé de faire un coup de pub en utilisant des Google Glass, mais ça sert absolument à que dalle. Non, les Google Glass, leur problème, c'est qu'elles sont très chères. C'était vraiment un prototype sur pattes, quoi. C'était absolument pas un vrai produit fini. C'était pas assez puissant, il y avait un système sur puce, donc une puce qui datait de la guerre, c'était une puce Texas Texas Instruments. Texas Instruments fait même plus de puces pour mobile.
Pour des calculettes, non?
Elle avait pas beaucoup de RAM. Quand ils l'ont passé sur KitKat et les Google Glass, elles ont explosé, quoi. Enfin, je veux dire, elles n'étaient pas assez puissantes pour supporter Android 4.4. Bon, voilà, quoi. C'était pas folichon. Et puis bon, c'était socialement, c'est pas très bien accepté. En plus, les Google Glass, et puis elles apportaient encore une fois aucune valeur ajoutée que n'apporterait une montre connectée. De mon point de vue, c'est vraiment complètement. Enfin bon, voilà, c'est complètement n'importe quoi.
Bon,
Cela dit, oui.
Non, je te sens très en colère contre Google Glass, en tout cas le. Non, parce mais le
parce qu'il est, ils les ont sortis comme un coup de pub pour faire de la com. Ils ont marché à un prix extrême, mais. Enfin, c'était vraiment pas un produit fini, quoi, de mon point de vue. Hein.
Jean-Philippe, contre, tu vas contredire Guillaume juste rapidement sur les Google Glass ou est-ce que tu vas dans son sens?
Je suis à moitié d'accord. Je suis à fond pour le concept, pour la partie vision tête haute. Maintenant, il existe d'autres glaces qui s'appellent pas Google, qui sont plus performantes, qui sont mieux, etc. Parce qu'effectivement, l'électronique de Google est hors de prix et on achète la marque. Après, l'usage qu'il y a, c'est juste d'aller dans un meet-up avec les glaces et prendre toutes les cartes de visite des gens qui viennent discuter avec toi parce que tu as des glaces sur la tête. Mais sinon, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Par contre, sur le concept, le fait d'avoir une vision tête haute d'information est assez intéressant et le fait d'avoir une caméra qui filme est aussi intéressant. Maintenant, on verra ce que ça donnera quand ce sera vraiment fiable, parce que pour l'instant, le produit n'est pas fiable, il y a des problèmes d'autonomie, etc. Peut-être que le processeur va permettre d'améliorer les choses. Moi, j'attends de voir.
Guillaume, tu nous dépeins un avenir radieux alors sur les Google Glass?
Bah, les Google Glass tels qu'on les connaît, oui, je trouve que c'est pas du tout abouti et que ça n'a aucun intérêt. Par contre, je pense que c'est clair que c'est une direction dans laquelle Google veut aller, c'est-à-dire que la vision tête haute et la réalité augmentée, c'est clairement, à mon avis, un truc dans lequel ils veulent investir, puisqu'ils ont quand même investi, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps, un demi-milliard de dollars dans Magic Leap, qui est spécialisé dans la réalité augmentée, dans la possibilité de matérialiser des objets en 3D, sur la réalité, quoi, hein. Alors on ne sait pas exactement encore comment ils font, il n'y a toujours pas beaucoup d'informations qui sont sorties, mais bon, il est certain que Google se tourne plus vers la réalité augmentée que vers la réalité virtuelle, et que, bon, bah, pour ça, bah, il faudra quand même des trucs, un dispositif qui va s'apparenter à des lunettes, et il faudra bien effectivement dedans mettre des composants un petit peu puissants, des choses un petit peu à jour, et donc effectivement, bah, on sait que les prochaines Google Glass vont être propulsées probablement par un Atom d'Intel. Ce qui est une excellente nouvelle, enfin, je veux dire, ce sont des processeurs puissants, les nouveaux Atom n'ont pas grand chose à se reprocher, donc ça va certainement donner un énorme coup de fouet aux prochaines Google Glass, mais moins que le rafraîchissement du processeur qui était de toute façon absolument nécessaire, c'est plutôt la technologie d'affichage, moi, qui m'intéresse, est-ce qu'ils vont changer, parce que honnêtement, ce petit afficheur à prisme qu'il y avait dans un coin de l'œil comme ça, je trouve pas ça extraordinaire, je trouve pas ça très impressionnant, quoi. Ben non, mais je l'ai vu. On sait très bien comment ça marche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste un prisme.
Il paraît. Les ouais. retours que j'ai eus, c'est qu'il paraît que ça marche. C'est plus bluffant que ce qu'on pense, non?
Bah, l'écran, il est pas extraordinaire et en même temps, il est bluffant par sa petite taille. Quand on bouge la tête, on voit bien les choses, etc. Donc c'est intéressant. Je m'attendais à pire, en fait.
On est d'accord, faut regarder dans le coin de son champ de vision, c'est-à-dire avoir l'air de chercher dans sa mémoire pour voir l'information. On est d'accord, ça n'apparaît pas naturellement.
Oui, sur ces Google Glass là, oui, il faut regarder en haut à droite pour voir l'information, mais elle est très bien vue. Enfin, c'est assez sympathique. Si pour ceux qui s'intéressent de tester et de jouer avec ces sujets-là, il y a un meet-up parisien, donc c'est réservé aux Parisiens, qui s'appelle Paris Réalité Alternative. Je crois que les vidéos sont en ligne sur meetup.com, qui croise toutes les technos Oculus Rift, toutes les technos Google Glass et toutes les technos de monde virtuel, et qui explique un petit peu tous ces sujets-là.
Bah écoute, on va mettre ça dans les notes de l'émission. Guillaume, on te laisse continuer, navré de te couper hein, à chaque fois. Je suis désolé.
Non, mais c'est normal. Continuer sur quoi? Sur Intel, par exemple
Par exemple, ouais, et puis sur l'univers fabuleux des microprocesseurs et des composants qui font la tech d'aujourd'hui.
Non, mais il n'y a pas des masses. Oui, bah de demain, ouais, de 2015 en fait, puisque bon, on a eu la roadmap d'Intel qui a été confirmée, donc ils ont confirmé leur nouveau processeur pour 2015. Et donc il y aura deux trucs en 2015 en fait importants. D'une part, il y aura le rafraîchissement d'Aswell en 14 nanomètres, qui donc ça va permettre effectivement de réduire la consommation principalement, peut-être de monter les fréquences, enfin en tous les cas c'est toujours une bonne nouvelle. Et il y aura surtout Skylake, c'est-à-dire le nom de code de la nouvelle génération de puces Intel, le flagship quoi, Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y aura probablement aussi de nouveaux atomes en 14 nanomètres. Ce qui est pas trop étonnant parce que, bon, apparemment, Intel est très très sérieux dans son ambition de conquérir le marché de la mobilité. Et donc, il s'en donne les moyens avec toute une gamme en fait, de processeurs qui va de l'atome qui est de très très basse consommation, en passant par des cores M et puis par les diverses générations de ces nouveaux processeurs, quoi. Et Skylake, bon, qu'est-ce qu'apportera Skylake? Parce que finalement, Broadwell, ce sera juste un Haswell en 14 nano. Alors, le prochain Skylake apportera apparemment quelques nouvelles instructions, donc des instructions AVX sur 512 bits. Et on n'arrête plus, hein, 512 bits, donc je rappelle, hein, donc le processeur 64 bits, mais dedans, il y a des instructions qui permettent de travailler en 128, 256 ou bientôt 512 bits, donc tout ça pour en travailler sur des très 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 gros vecteurs. C'est intéressant pour faire de la vidéo, pour faire du traitement d'image. Il y a beaucoup d'applications
3D.
Pour ça. Voilà, il y a beaucoup d'applications, bien que ça paraisse complètement farfelu, il y a énormément d'applications pour ça et c'est très, très, très intéressant. De même d'ailleurs que les instructions pour calculer les H, SHA1 et SHA2 en hardware. Et bon, quelques autres petits ajouts, bon, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Il y aura aussi un nouveau GPU, hein, donc petit à petit, les GPU intégrés au processeur deviennent de plus en plus puissants néanmoins et de plus en plus intéressants, surtout pour les utilisateurs casual. Donc là, on aura quand même un GPU capable de fonctionner avec DirectX 12 et qui pourra utiliser un cache de L4. Alors, les GPU intégrés au processeur utilisent la RAM. Mmh. Elles n'ont pas de mémoire vidéo dédiée, comme les grosses cartes graphiques de gamers. Donc elles doivent utiliser la RAM, et en fait elles doivent partager donc, la bande passante de la RAM avec le processeur lui-même. Et ça peut poser des problèmes. Enfin, disons, évidemment, la bande passante divisée par deux, ça peut être, ça peut poser des problèmes. Alors ça pose pas énormément de problèmes, parce qu'en général, ces GPU ne sont pas très puissants. Mais avec la montée en puissance des GPU intégrés, bon, ben c'est toujours de la bande passante en moins, quoi. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est aussi rencontré par les consoles de nouvelle génération qui ont un pool de mémoire unifié et qui donc, eux par contre, ils ont une grosse GPU, un CPU correct, et donc ils doivent se partager la bande passante. C'est un problème qu'a rencontré Microsoft en particulier dans la Xbox One et qu'ils l'ont réglé en mettant un petit pool de RAM qui est intégré, qui fait un petit peu le tampon comme une sorte de cache. C'est pas un cache réellement, puisqu'il est directement utilisé par le programmeur. Enfin bon, bref, c'est une sorte de tampon qui permet de cacher un certain nombre de transferts pour éviter de faire appel à la mémoire et donc pour soulager les appels à la mémoire. Donc c'est un cache en fait, mais c'est un cache pour le GPU, comme il y a des caches pour le CPU. Donc c'est un autre niveau de cache. Donc c'est assez intéressant. On aura le support de la DDR4. On espère qu'elle sera un peu moins chère donc dans les années à venir, parce que pour l'instant c'est une horreur, mais bon voilà, donc le Skylake
supportera
la DDR4. A priori on aura des processeurs quadricœur avec hyperthreading comme les bons vieux Core i7 première génération d'ailleurs. Enfin, ce sont des processeurs qui resteront à 4 cœurs sauf sur les déclinaisons serveurs, hein, qui sont vraiment qui pourront monter plus haut. Et peut-être plus intéressant, parce que bon, pour l'instant, tout ça, qu'est-ce que je dis? Je dis juste que ce seront des processeurs un petit peu plus mieux, meilleurs que ceux qu'il y a, mais voilà quoi. Par contre, il y a un truc assez marrant un projet d'Intel dans le truc de Skylake, qui sera concomitant avec Skylake et dont on n'a peut-être pas trop parlé, c'est l'intégration, c'est l'abolition des câbles, c'est-à-dire que c'est projet d'Intel.
Ça me plaît.
Exactement, un projet d'Intel qui était de virer tous les câbles, y compris le câble d'alimentation.
Et ça, c'est fort. Ça.
Donc pour l'écran, ils veulent utiliser du WIDI, du WIDI, hein, c'est-à-dire une sorte de Wi-Fi pour l'écran, quoi, des ondes à 60 GHz, je crois, un truc comme ça. Mais plus marrant, ils veulent aussi virer le câble secteur en utilisant une technologie. Alors c'est pas de l'induction magnétique, c'est ce qu'ils appellent de la résonance magnétique.
Alors induction, tu nous rappelles, c'est fonctionnement par aimant, c'est ça qui tourne?
C'est un petit peu comme une table d'induction. Il y a un champ induit, et si vous mettez une bobine en face, elle reçoit le champ magnétique, elle est reçue par la bobine en face, et elle induit un courant que vous pouvez récupérer. Et donc c'est un transfert de courant qui se fait comme ça. Et d'une manière assez. Alors, le principe est le même dans la résonance magnétique, sauf que c'est beaucoup plus subtil. Et alors là, par contre, j'arrive un petit peu aux limites de mes compétences, mais bon, il semblerait que, au lieu d'envoyer de manière assez brutale, on va dire, de champs magnétiques un peu partout, c'est-à-dire en sphérique, en rayonnant un petit peu partout, et donc en
D'accord.
perdant de l'énergie, en faisant du radiatif, en perdant de l'énergie un petit peu dans toutes les directions. En faisant de la résonance magnétique, en fait, on utilise la résonance. Alors, la résonance, c'est-à-dire que finalement, au lieu d'envoyer des trucs partout, on utilise un
On a
guidon qui
ciblé.
envoie des petites ondes évanescentes, comme ça, plus ciblées. Et les ondes évanescentes peuvent être amplifiées, mais uniquement par un dispositif résonnant en face. C'est-à-dire un truc compatible, en fait, si vous voulez, une sorte d'onde compatible en face. Et ce truc-là permettrait, en fait, non seulement une déperdition d'énergie qui serait très très faible, mais qui en plus permettrait de transférer de l'énergie dans un rayon de plusieurs mètres. Et en tout cas, au moins, comment dire, au moins sur un bureau, ça c'est clair, mais potentiellement dans un truc de plusieurs mètres.
Dans une maison, un appart, une pièce à minima, quoi.
Exactement, dans une pièce, c'est le but en fait, c'est exactement le but. Et ça vient d'une expérience qui a été faite par je sais plus quel, alors je sais plus quel. C'est assez récent, en demi, je crois que ça date de 2006. Dans une université, ils ont fait une expérience. Et ils ont appelé ça la Wi-Tricity, la wireless electricity. Ils ont allumé comme ça une ampoule à quelques mètres, enfin une ampoule comme ça avec un dispositif de récepteur. Ils ont réussi à allumer une ampoule à transférer de l'énergie sur quelques mètres. Et en fait, le Wi-Tricity a été récupéré par des géants de la technologie et dont Intel. Et ils en ont fait une marque qui s'appelle Résence et qui sera a priori intégrée dans les machines équipées en Skylake. Et ça pourrait effectivement révolutionner pas mal les usages, si c'est le
Tu
cas.
m'étonnes.
Bon, voilà, on verra en 2015. Fin 2015. Hein.
On attend de voir si ça aura des impacts sur la santé humaine, mais en tout cas, effectivement, moi, ça me ferait bien rêver de plus avoir de câble pour brancher mes appareils. On va conclure la séquence des microprocesseurs et des composants de manière générale, mais un petit clin d'œil, Jean-Philippe, tu avais relevé un petit sujet dans lequel tu portes pas mal d'espoir, tu notais dans le doc, qui tourne autour des composants. C'est vrai que c'est rigolo à voir. Hein.
En fait, en ce moment, il y a énormément de projets Kickstarter autour de l'électronique pour faire ses propres composants qui commencent à apparaître. Et il y en a un qui s'appelle Tiny Screen. C'est des mini Arduino que l'on va emboîter les uns avec les autres et on va mettre son premier capteur, puis son deuxième, puis sa batterie, un petit peu comme des Lego. Et au final, on aura un composant Arduino fonctionnel avec un petit écran en plus pour faire une mini manette de jeu ou pour faire une montre connectée ou ce genre de choses. Et donc, c'est assez intéressant.
Et on voit d'ailleurs sur les photos, enfin sur le Kickstarter, là, il y en a un qui s'amusait à refaire les Google Glass version Leader Price avec cet écran, j'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer plein de choses finalement. Bah, c'est des chouettes choses qui arrivent. On espère qu'il va y en avoir encore beaucoup. Une chouette chose qui est arrivée, en tout cas selon certains, c'est Apple Pay, qui est arrivé évidemment avec les dernières versions des iPhones. Alors Pierre Olivier avait déjà parler du fait que bon, ils trouvaient quand même Apple en rajoutait des kilomètres pour les succès de leur paiement. Ils affichaient des millions de transactions et puis finalement c'était rapporté aux grandeurs de la réalité. C'était assez ridicule. Et puis finalement, Guillaume, il semblerait qu'Apple Pay commence malgré tout à percer, à creuser un peu son trou, à faire un peu son nid.
Bah, je sais pas exactement, mais enfin, disons que là, pour l'instant, il semblerait que 50% des paiements sans contact faits dans les McDo soient faits par Apple Pay.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Ce qui est pas mal, mais enfin, c'est pas non plus forcément énorme. Mais il y a d'autres enseignes qui indiquent qu'Apple Pay représente 1% du total de ces paiements, du total global, j'ai l'impression. Donc, c'est déjà pas si mal, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui utilisent le paiement sans contact, sans doute. Donc, on va dire que c'est pour l'instant, c'est pas ridicule. Voilà, donc ça commence à décoller doucement. Ouais.
Bon, à voir si ça tiendra vite un plafond ou pas. On ne peut pas s'empêcher d'être assez exhaustif et de souligner les choses qui sont notamment positives et qu'on apprécie, notamment du côté de chez Microsoft. Là, je fais un petit clin d'œil à nos copains de chez Lifetile qui me chambrent régulièrement sur Twitter parce que je ne suis pas suffisamment objectif peut-être vis-à-vis de Microsoft. Et là, il y a quand même des jolies choses qui évoluent et qui méritent d'être soulignées, Guillaume.
Bah écoute, oui, quand même, hein. Microsoft, ils sont sympas en fait, ils sont gentils. Et puis ils aiment tout le monde, ils aiment les gens, ils aiment tout le monde, ils aiment les pingouins, ils aiment les petits robots verts, ils aiment tout le monde. Et parce qu'ils viennent de rendre .NET open source. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Sun, Oracle, pour Java, c'est-à-dire qu'ils ont rendu Java open source, hein, à un moment donné. Et là, ils ont rendu .NET open source. Donc, ça veut dire, ben, en fait, .NET, c'est un petit peu le moteur, hein, la machine virtuelle, donc le moteur qui permet aux applications Windows, globalement, à celles qui sont faites en .NET, disons, de s'exécuter. Et donc, ça a fonctionné que sous Windows, assez logiquement. Et si on voulait programmer et exécuter des trucs .NET ailleurs, il fallait par exemple utiliser Mono, des trucs tierces, donc des librairies tierces sur Linux. Et ben apparemment, Mono n'a pas un avenir radieux devant lui parce que ce ne sera plus la peine bientôt. .NET étant open source, il pourra être utilisé sur absolument toutes les plateformes, tu vas te recompiler, utiliser sur toutes les plateformes. C'est une très bonne nouvelle et ça vient en plus avec l'annonce que Visual Studio 2015, donc la prochaine édition du gros studio de développement, donc du gros logiciel de développement de Microsoft, une vraie référence hein, dans le domaine. Donc ça vient avec l'annonce que justement ce Visual Studio va supporter non seulement donc Windows, mais aussi iOS et Android. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, il semblerait qu'avec Visual Studio 2015, vous puissiez faire des applications Android, qu'il y ait même un émulateur Android dedans pour tester vos applis directement. Et que, alors, il semblerait que ce soit aussi possible avec iOS et que vous puissiez vous passer de Xcode. Bon, on n'a pas encore vu l'émulateur iOS, on ne sait pas trop comment ils vont faire ça. Ça paraît assez incroyable. Et pourtant, c'est ce qui est annoncé, quoi. Donc, Visual Studio 2015, une plateforme de développement universelle, ce qui est tout à fait étonnant.
Bon, ben, nouvelle tête, enfin nouvelle personne à la tête de Microsoft, nouveau Microsoft, c'est cool. Jean-Philippe, tu as suivi ça? Comment tu vois un peu l'évolution de Microsoft? On sait que Sarah, à la base, nécessite quand même pas mal d'être relié à un environnement Windows, à la base.
Oui. Oui, en fait, Sarah, la partie cliente est dépendante de Windows et dépendante de .NET. Donc, c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle. Microsoft essaye de se racheter une conduite depuis quelques années pour justement faire beaucoup d'efforts dans tous les domaines. Et du coup, ça continue dans ce chemin-là et c'est vraiment très bien. Maintenant, il y a énormément de librairies .NET qui sont des wrappers de code C qui sont natifs, et du coup, pour ce genre d'usage, typiquement pour le Kinect, je pense pas que ce soit portable sous Linux. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est ce changement d'attitude de Microsoft dans tous les domaines, que ce soit au niveau des navigateurs, que ce soit au niveau du web, ou au niveau de leur volonté d'unifier tablette et desktop, qui est vraiment super positif. Il manque juste une chose, c'est qu'ils unifient avec les consoles de jeux. Ou c'est un monde à part du côté de la Xbox One.
Ouais, effectivement, il y avait des rumeurs d'ailleurs pendant un temps se séparer de Xbox ou pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment du tout à l'ordre du jour. Je pense que ce serait complètement stupide. Mais effectivement, on sent qu'il y a encore deux mondes par rapport à ça. Bah, c'est intéressant en tout cas de voir ton retour, toi qui bosses concrètement, j'allais dire, les mains dans le cambouis du cambouis de Microsoft, de voir comment ça évolue. C'est plutôt positif. Jean-Philippe, on en profite parce que invité inhabituel, j'allais dire, parce qu'on ne t'entend pas habituellement dans Tech Café, nous permet d'aborder des sujets que nous n'abordons pas d'habitude. Il y a un sujet qui passionne beaucoup de monde et qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aborder faute d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, c'est les drones. On en entend évidemment parler, on les voit passer dans les catalogues, etc. Il en existe de plus en plus. Et puis ben, toi, tu as un premier retour sur un produit de chez Parrot.
Alors, je ne suis pas du tout un expert, hein, mais c'est surtout que c'est un truc que je voulais acheter depuis un certain temps. Et il faut savoir qu'il y a en fait trois catégories de drones. Il y a les petits drones qui vont être dans une pièce, qu'on va s'amuser à piloter, mais qui n'ont pas de gyroscope. Et du coup, c'est relativement compliqué à utiliser. Il y a les drones moyenne gamme, comme le Parrot, qu'on va utiliser d'un point de vue ludique en intérieur ou en extérieur, et qu'on peut faire voler relativement haut. Et après, il y a les drones professionnels dont on entend parler un petit peu partout. Ma volonté d'acheter un Bebop drone, c'était surtout de voir en vrai comment ça fonctionnait, de se rendre compte, on voit souvent des belles images avec une belle musique de fond, alors qu'on a une espèce de tondeuse à gazon en fait qui vole, qui fait un bruit monstrueux et qui fait aussi beaucoup de vent. Donc c'est ça qui est amusant. Et puis l'autre élément qui m'avait intéressé aussi, c'était on est dans le monde réel. Donc dans le monde réel, il y a du vent, il y a plein d'éléments qui perturbent le drone. Et donc même si le drone est ultra stable et vraiment impressionnant, un coup de vent fait qu'il va monter, qu'il va descendre, qu'il va se déporter vers un arbre potentiellement. Et du coup, cette logique d'informaticien où on va appuyer sur son smartphone en disant tu tournes à gauche, tu tournes à droite, t'avances un petit peu comme le logo à l'époque, là, on est dans le monde physique, donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment stable. La qualité des images, car le drone embarque une caméra qui fait du 1080p, je crois. La qualité des images est magnifique. Il y a un stabilisateur intégré qui fait que l'image ne saute pas. Et du coup, ça donne des résultats super sympas. J'ai pris la version qui était à 500 euros. Donc, qui se pilote avec un smartphone. Il y a une version qui est à 900 euros qui se pilote avec une espèce d'énorme télécommande. L'application mobile n'est pas extraordinaire, mais bon, elle fait le boulot. J'ai juste une frayeur parce que je m'étais amusé à monter à 12 mètres à la hauteur d'une maison et j'ai eu une coupure Wi-Fi. Et donc là, on prie pour que la
Oups.
coupure Wi-Fi se revienne parce qu'on ne sait pas quoi faire avec le drone. Est-ce qu'il faut attendre la fin de batterie? Enfin bon, c'est assez paniquant. Mais sinon, globalement, ça marche bien. Après, il y a des réglementations. Normalement, on n'a pas le droit on est censé voler à vue, maximum 150 mètres de haut. Alors, moi, je suis loin de les atteindre. Normalement, dans des zones où il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de personnes. Donc, on oublie les villes, on oublie tout ça. Mais bon, là, l'idée était de tester. Il y a les vidéos sur mon site que j'ai mis pour un petit peu se rendre compte, avec une belle musique.
Pour
Et
masquer le bruit original de la
voilà.
tondeuse. Ouais.
Et c'est intéressant parce que récemment, j'ai vu une news d'un drone qui amenait sur un plateau je sais plus, deux cafés. Et en voyant la news, maintenant, je me suis fait la question, mais alors les gens, ils sont assis à table, et puis il y a une espèce de drone qui fait avec beaucoup de vent et qui va amener deux cafés. Non, c'est pas
Bonjour la
possible.
discrétion.
Et voilà, c'est toute la force du marketing de réussir à masquer ça. Et voilà, et aussi quand on parle d'attaque centrale nucléaire. C'est pareil, le drone n'est pas capable de porter de lourdes charges. Alors, les drones professionnels, beaucoup plus. Ils ont plein d'hélices pour être redondantes. Mais bon, tout est relatif et tout est vraiment particulier. Si vous avez un drone professionnel, il faut avoir une licence auprès de la DGAC pour avoir le droit de voler dans certaines zones. C'est très très réglementé. Donc, et puis, ça prend de la place. Donc voilà, l'expérience est vraiment intéressante. Je vais essayer de le piloter avec Sarah. L'idée étant de pouvoir lui dire, vas-y, fais un tour de patrouille, ou lui
Ah,
dire
yes.
de le commander avec de la reconnaissance gestuelle. Mais bon, c'est vraiment pour le principe. Mais voilà, c'est enfin un drone qui est fiable où un neuneu comme moi réussit à le piloter sans forcément avoir des compétences de pilote. Une tendance aussi qui se fait sur les drones, c'est les courses de drones. J'ai vu ça récemment. C'est des gens qui font un circuit comme dans Star Wars, dans la forêt. Ils mettent des lunettes, parce que le Bebop peut aussi avoir des lunettes, mais bon, généralement c'est des drones plus do it yourself. Et ils pilotent le drone en regardant ce que voit le drone dans la forêt, à essayer de faire une course, vraiment comme dans Star Wars. Alors il y a beaucoup de crash, il y a beaucoup de choses cassées, mais c'est assez amusant.
Ça, avec un Oculus Rift, ça doit être effectivement assez bluffant.
Bah, c'est ça, c'est un peu l'équivalent, c'est beaucoup plus route, mais voilà, c'est des drones faits à la main avec des lunettes faites à la main pour que ce soit rapide et en même temps que la bande passante permette de balancer la vidéo. Mais c'est assez amusant, il y a vraiment beaucoup d'usages. Pareil, quand Amazon vous dit qu'ils vont vous livrer avec des drones, un des problèmes qu'ils essayent de régler,
C'est le poids du colis.
il y a le poids du colis, mais il y a aussi un truc tout bête, c'est quand le drone il arrive, tu as tendance à faire ouais, chouette mon paquet et à tendre les mains vers les hélices. Donc c'est bête, mais il faut qu'ils repensent toutes ces problématiques d'ergonomie en mettant des grillages autour des hélices pour pas que les gens soient blessés et ce genre de choses.
Ah, mes doigts.
L'autonomie du drone est de 25 minutes et il est livré avec deux batteries, ce qui permet de passer d'une batterie à
25
l'autre.
minutes. Ça me
Ouais.
paraît
Mais
super.
c'est non, en fait, c'est énorme. Hein.
Ouais,
Ouais,
parce
c'est
que des
énorme.
drones, moi j'ai entendu plutôt de l'ordre de 12 minutes, c'était vachement bien. À
Ouais.
25 minutes, je suis assez bluffé.
C'est ce qui est noté dans la notice. En pratique, je me suis pas rendu compte parce que voilà. Mais c'est pas mal, c'est vraiment bien et j'étais vraiment bluffé par les vidéos qui sont enregistrées sur le drone et qui font des gigas. C'est-à-dire que c'est pas compressé dans des algos donc comme du H264, c'est un peu compressé mais pas énormément.
Moi, ce qui m'a bluffé, vous avez regardé les vidéos, hein, mais je ne me souvenais pas avoir vu des vidéos. Alors, ça faisait peut-être un petit moment que je n'en ai pas regardé, hein, ça a peut-être beaucoup évolué, mais je ne me souvenais pas avoir vu des vidéos tournées avec des drones qui soient aussi stables. C'est bluffant, et même quand tu as la possibilité de pivoter le drone sur lui-même, enfin de tourner un petit peu, le fait de tourner, tu vois pas vraiment la transition. Alors, c'est d'ailleurs assez sec, hein, mais c'est super stable. Je suis assez bluffé.
En fait, le drone est en deux parties. Il y a une partie supérieure avec toute la mécanique, etc. Et tu as une partie inférieure. Et entre les deux, tu as des espèces de sphères en plastique qui amortissent tous les chocs. Ce qui fait que, effectivement, le rendu est vraiment très bon. Par contre, au niveau de l'application mobile, qui aussi récupère le flux vidéo, il y a souvent, moi, j'ai eu souvent des coupures. Donc, si il faut pas se fier à l'application mobile, il faut vraiment regarder le drone quand on tourne, parce qu'à un moment on a du lag et puis on perd des choses. Je pense que c'est corrigé avec la version supérieure de Bebop.
Écoute, excellent. En tout cas, merci pour ce petit retour de drone. Ça manquait un petit peu à notre tableau de chasse des différents objets qu'on peut aimer aborder dans Tech Café. Donc, merci beaucoup. Et puis, allez, un dernier petit clin d'œil sur un petit retour, là encore, de quelque chose que tu avais commandé il y a de ça un an. T'as un petit peu de recul. Tu vas pouvoir nous dire ce que c'est et nous donner un petit peu ton avis rapidement.
Oui, c'est le Mio. Alors le Mio, c'est une société qui a décidé de faire, comment dire, de vendre un objet connecté pour faire de la reconnaissance gestuelle. Et ils ont décidé de pas ne faire de crowdfunding, mais de le faire par eux-mêmes. Et du coup, il a fallu attendre un an et demi que je pense à peu près, que le Mio sorte. Et donc c'est un bracelet qu'on met au niveau de l'avant-bras et qui va regarder
Très
les
moche.
modifications, ouais.
Pardon.
Oui, si, c'est vrai. Et qui va regarder en fait comment les muscles vont bouger pour reconnaître les gestes et les mouvements des doigts. Et c'était vachement bien il y a un an et demi, mais de nos jours, avec la qualité de Kinect 2, de la reconnaissance gestuelle de Kinect 2 et ce genre de choses, je suis assez déçu parce que déjà le bracelet serre le bras, et puis bon, c'est quand même un bracelet sur l'avant-bras. Et ensuite, parce que il n'y a pas de magie en fait, c'est-à-dire qu'il propose deux applications pour commander PowerPoint et pour commander les vidéos avec VLC, et il y a un trigger, comme pour Sarah, on dit Sarah fait quelque chose. Là, en fait, il faut que le pouce touche le petit doigt pour dire je vais
Oula.
faire quelque chose. Et ensuite, il faut faire un mouvement de la main, donc étirer la main, faire le poing, tourner le bras, ce genre de choses. Et bon, c'est intéressant, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas parfait. Il y a souvent, il perd le mouvement. C'est pas forcément très intuitif. Donc, j'étais assez déçu sur celui-là.
Ouais.
Mais bon, c'est un objet qu'on voit peu, qui est tout nouveau, ils ont commencé à faire les livraisons il y a peu de temps. Et au niveau programmation, pour faire des commandes et programmer différents objets, c'est du Lua. Donc c'est le langage de script qu'il y a par exemple dans World of Warcraft. Après, on peut imaginer des usages où on est avec son mobile et à ce moment-là, on est en situation de mobilité et on veut tourner les pages de son mobile alors qu'on a les mains sales parce qu'on est en train de bricoler. Il y a toujours des usages, mais ça reste vraiment à la marge.
Ouais, ça peut peut-être encore une fois des usages professionnels, mais je vois mal les gens déjà, ne serait-ce que se balader avec ça dans la rue. Déjà qu'il y en a qui trouvent les smartwatches un peu épaisses, alors là, bonjour l'angoisse.
On peut même en avoir deux.
Oh oui, puis peut-être un aux jambes aussi, un coup parti. Il faudrait inventer les usages avec les gens. Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, c'est plein de retours intéressants sur des sujets qui ont été testés, approuvés ou pas. Je vous propose qu'on enchaîne avec la rubrique des bonus. La rubrique des bonus, c'est quoi? Vous le savez, c'est un petit peu nos coups de cœur. Alors, ça peut être tantôt des applications, tantôt des petites expériences qu'on a vécues. Et à chaque fois, souvent, Guillaume nous propose du nouveau d'un point de vue ludique avec des jeux qu'il a expérimentés. Bah c'est rare quand il est super emballé, il a bien l'habitude de pouvoir nous relayer des jeux qu'il a tendance à critiquer. Alors Guillaume, qu'en est-il aujourd'hui? Nous as-tu dégoté quelque chose que tu vas pouvoir recommander les yeux fermés à nos poditeurs?
Alors comme ça, je suis un chieur, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Oh là là là, je te jure. Non,
Je me
parce que
permettrai
quand on est
pas.
un peu, quand on est un petit peu objectif, on est un chieur tout de suite. C'est pas possible ça. Ah là là, donc non mais celui-là il est pas mal, il est pas mal. Hein. Donc
Bon.
là j'ai non mais j'ai testé un tout petit jeu tout rigolo qui paye pas de mine, s'appelle Duke Dashington. Donc c'est évidemment un jeu de mots, Dashington avec Dash parce que effectivement le personnage qui est une espèce de, comment dire, de croisement entre Lord Anglais et Indiana Jones. C'est tout en pixel art, hein, donc c'est un genre de 2D pixel art. Donc le personnage est comme ça, une espèce d'aristocrate aventurier, et il ne fait que dasher, c'est-à-dire vous appuyez sur une direction, et il part comme ça, comme un fou, dans cette direction, jusqu'à ce qu'il rencontre un mur, tout simplement. Il peut aussi sauter en dashant, comme ça, jusqu'à ce qu'il rencontre un plafond, ou des pics, ou des flammes, et sa mort certaine. Et en fait, il a raison de dasher, parce que partout où il va, il a vraiment pas de bol, tout s'effondre tout le temps, et donc il doit toujours trouver la sortie de la pièce le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il a 10 secondes pour sortir de chaque tableau.
C'est super anxiogène.
Du coup, oui, mais alors évidemment, quand vous mourrez, vous êtes ressuscité au tableau. Enfin, donc c'est, en fait, c'est...
pas tout recommencer.
Voilà, c'est comme Super Meat Boy, hein, c'est assez classique maintenant. Donc vous avez comme ça quatre environnements, et donc sur chacun de ces environnements, vous avez 30 niveaux. Et ces 30 niveaux, c'est 30 tableaux qui font en fait tout simplement l'écran, hein, de votre smartphone ou de votre tablette, et vous allez devoir trouver la sortie. Et pour ça, évidemment, il faudra des timings, il faudra du timing, il faudra des nerfs d'acier, parfois il faudra même réfléchir un tout petit peu avant de pouvoir trouver la sortie. Et ma foi, le jeu est pas mal. Hein,
ça a l'air horriblement difficile.
Alors, bah en fait, au début, on pense que c'est horriblement difficile, et puis finalement, je sais pas si je suis un excellent joueur, mais ça doit être ça, je l'ai trouvé pas si dur que ça, parce que, bon, le jeu fait 99 centimes, le problème, c'est que je l'ai fini en une heure et demie, quoi.
D'accord.
Et donc, le jeu est vraiment pas très long, voilà, honnêtement, parce que sur les 30 niveaux, tous ne sont pas difficiles. Et puis parfois, vous pouvez avoir de la chance, ça arrive dans la vie aussi, des fois, d'avoir de la chance. Et donc, vous pouvez passer les niveaux, et voilà. Donc oui, c'est assez difficile, vous aurez énormément de die and retry. Mais enfin, si vous vous débrouillez, au fur et à mesure, on s'habitue, si vous vous débrouillez pas trop trop mal, bon, vous devriez en voir la fin assez rapidement. Néanmoins, le jeu est relativement sympa, et parfois, les petits niveaux sont assez bien foutus. Donc bon, voilà, un bon petit jeu, sympatoche, disponible sur iOS et sur Google Play. Pour devenir fou, parce qu'il y aura qu'il y a des fois, par contre, vous pourrez recommencer 26 fois, 30 fois, 50 fois le même niveau, ça peut frustrer au bout d'un moment.
Bon, bah, faites-vous votre avis, hein. Il y a toujours du gros pixel, hein, mais bon, c'est un jeu sur lequel tu es un petit peu plus dithyrambique que d'autres, en tout cas. À vous de vous faire votre avis. Je voudrais enchaîner, moi, avec... c'est rare quand je vais au ciné, c'est très très rare, parce qu'en fait, je suis assez associable, et j'aime pas beaucoup les gens à côté de moi au cinéma, ce qui est assez embêtant pour aller au ciné. Je me retrouve toujours à côté de la personne qui gratte profondément dans son paquet de popcorn ou de chips, ou la personne qui est très grande et très chevelue, qui s'assoit juste devant moi, bref.
C'est parce que t'es en région parisienne, ça.
C'est peut-être ça le problème. Tiens, je vous invite à aller voir au passage une vidéo, le démotivateur. Vous allez voir, il relate ça très très bien. Je mettrai ça aussi dans les notes de l'émission. Et je suis allé voir, malgré tout, envers et contre tout, Interstellar, parce que ça m'intéressait bien de voir ce film de Christopher Nolan, qui est un film d'anticipation. Alors, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vous fais le pitch très rapidement. Dans 40 ans environ, la Terre a été bouleversée par des changements climatiques très importants, elle est balayée par des vents de poussière, et l'agriculture se meurt. Et évidemment, la compétence la plus recherchée dans un environnement où l'agriculture se meurt et où la famine guette, ce sont les agriculteurs. Et donc tout le monde se contre-tape d'avoir des ingénieurs qui font des super objets connectés à Internet. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est des agriculteurs. Et on suit un des agriculteurs dans cette aventure, qui est un papa de deux enfants dans une ferme, et qui est quand même un agriculteur quand même plutôt qualifié, parce qu'il a des compétences de pilotage on va dire de vaisseaux, on va dire, hein, grosso modo, de vaisseaux spatiaux. Et de fil en aiguille, il s'avère que ce monsieur va être embauché pour aller visiter des mondes qui pourraient être habitables, pour permettre à l'espèce humaine de survivre. Et évidemment, je vais m'arrêter ici, parce que sinon je vais en dire trop, mais c'est en tout cas un film complètement bluffant, qui fait clairement pleurer, hein, il donne des vraies émotions. Enfin, moi, j'ai été particulièrement emballé. Je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Moi, j'ai été vraiment très très emballé, ça fait très longtemps que j'ai pas été touché comme ça par un film. 2h50, pour moi 2h50 de pur bonheur, que je vous invite évidemment à aller creuser et à aller voir et à tester, vous faire votre propre opinion. Et je sais pas qui a rajouté dans les notes de l'émission très judicieusement l'épisode de Podcast Science. Levez le doigt.
C'est moi.
Jean-Philippe, bien vu. J'ai écouté un petit peu le début, moi. Il y a un épisode de Podcast Science où ils reprennent les éléments d'Interstellar. Alors d'ailleurs, il y a des éléments de spoil qu'ils abordent à la fin de l'épisode et pour lesquels ils font l'avertissement. Hein, mais ils essaient de décortiquer l'aspect scientifique qu'on pourrait en tirer d'Interstellar. Enfin, moi, en tout cas, gros coup de cœur. Et je vous invite évidemment à aller voir ce film. Guillaume, Jean-Philippe, vous l'avez vu, non?
Non, mais moi j'ai vu par contre les trucs physiques en fait. Moi, j'ai vu effectivement ce qu'il y avait comme physique d'Interstellar. C'est très très impressionnant effectivement. Et d'ailleurs, bon, je vais pas spoiler, mais je pense que tout le monde sait qu'il y a dedans il y a un trou noir quand même.
Non.
Oh non. Au secours. Là, il y a un gros trou noir dedans. Il est très très gros, il s'appelle Gargantua, je crois. Enfin, on s'en fout. Et donc, bref, le fait est que, tu vois, les Américains font pas les choses à moitié. Ils disent, bon, voilà, je vais faire un trou noir. Bon, le truc, c'est que je suis un mec qui fait du cinéma, quoi. Comment je représente un trou noir? Attends, merdez, parce qu'un trou noir, c'est noir. Bon. Et en fait, ils se disent, bon, bah, je vais demander à quelqu'un qui sait. Parce que quand je sais pas, et quand tu sais pas, faut demander à quelqu'un qui sait. Mmh. Et il a quand même pas pris n'importe qui, puisqu'il a pris Kip Thorne, qui est donc retraité des Caltech, et qui est, avec Stephen Hawking, une des sommités mondiales sur la physique des trous noirs et la relativité générale. Et c'est en particulier un des premiers qui a mis au point une théorie selon laquelle les trous noirs pourraient être traversables. Et ça pourrait être des trous de verre, en fait. Voilà. Ça, je veux pas spoiler, donc je vais pas aller trop loin, mais voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est que Kip Thorne est un vrai physicien qui fait de la vraie physique et qui a donné donc plein d'équations à l'équipe des effets spéciaux de Christopher Nolan, qui se sont cassés, mais vraiment, ils se sont vraiment ouverts pour faire un moteur de rendu d'image de synthèse adapté au trou noir, parce que voilà quoi, aucun logiciel d'image de synthèse n'est capable de représenter un trou noir, parce que le trou noir déforme la lumière et que ça, les logiciels d'image de synthèse, ils comprennent pas. Donc du coup, il a fallu tout recoder. Ils ont généré des centaines de terabytes de données pour faire un trou noir fiable, et c'est même à tel point que c'est devenu une véritable simulation scientifique. Et du coup, Kip Thorne a dit qu'il y avait matière à écrire au moins 2 articles scientifiques sur les nouveaux phénomènes en fait qu'ils avaient découverts grâce à la simulation de trou noir qu'ils avaient fait pour le film. Donc en fait, ce qui est encore plus fabuleux dans Interstellar, même si je l'ai pas vu, je peux vous dire d'après ce que j'ai lu que non seulement tout ce que vous voyez est beau, mais qu'en plus tout ce que vous voyez est vrai.
Voilà,
en tout cas, dans la
cohérence. Mais...
voilà, en tout cas, dans la mesure de la, comment dire, des connaissances scientifiques sur la relativité générale actuelle, quoi.
Jean-Philippe, tu l'as
vu ? Très très fort.
Oui, je l'ai trouvé vraiment très bien, mais je l'ai trouvé trop long. Ouais. Je pense qu'ils auraient pu un petit peu raccourcir la durée du film.
Surtout. Faire deux. Le découper en deux, peut-être.
Bah, deux, c'est frustrant après.
Ouais. Bah, c'est mais le principe bon. Des deux. Hein, tu sais.
Il pose les choses, mais il pose les choses pendant trop de temps. Et du coup, moi, j'ai senti un petit peu le temps passer. Mais par contre, j'ai vraiment trouvé très bien. Et j'ai hâte d'écouter justement le podcast de Podcast Science pour voir la partie physique. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui me semblaient un petit peu étranges. Et du coup, je pense qu'ils doivent expliquer ces deux parties-là.
Oui, moi je l'ai pas écouté en entier, mais il y a, en tout cas, ne serait-ce que la première partie. Alors même du coup, si vous voulez pas écouter Interstellar, écoutez au moins Podcast Science, parce que franchement la première partie, elle est complètement captivante sur qu'est-ce que c'est qu'un trou noir et comment ça se forme. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, parce que c'est très très bien expliqué. On continue peut-être un petit peu dans les films, Jean-Philippe.
Oui, alors j'ai vu passer récemment un film qui s'appelait Prédestination, qui je crois est sorti en DVD et que j'avais complètement zappé et qui est assez amusant. En fait, c'est un film petit budget, mais qui joue avec des paradoxes temporels d'une personne qui est là pour résoudre des crimes qui se passent dans le passé ou dans le futur. Et donc, du coup, il joue avec les paradoxes et avec lui-même. Après, je peux pas en dire plus parce que ça va spoiler. Mais c'est assez amusant parce qu'ils ont fait toutes les versions possibles et toutes les choses possibles avec le temps. Donc, c'est assez amusant. Dans le même esprit, un film beaucoup plus vieux, c'est La femme du voyageur temporel, qui est un film très très beau d'une personne qui voyage dans le temps. Et un petit peu pareil, il y a des paradoxes temporels qui sont assez sympathiques.
Excellent, excellent. Jean-Philippe, est-ce que tu... Alors, si vous manquez de recommandations ciné, je pense que vous êtes gâté. Quelques petits coups de cœur peut-être sur des éléments qui vont plus nous ramener autour des objets connectés?
Oui, sur les objets connectés, alors il y a un objet en vogue en ce moment qui s'appelle Flick, qui est un bouton connecté. L'idée est d'avoir un objet physique. Quand on appuie sur le bouton, ça va déclencher des actions au niveau du mobile, si j'ai bien compris. Et du coup, ça permet d'inventer des tonnes d'usages, typiquement les mettre sur des cadres photos pour une grand-mère avec les petits-enfants. Et quand on appuie sur le bouton, bah, ça appelle l'enfant sur la photo. Ils montrent aussi, ils ont fait des partenariats avec une télécommande connectée pour pouvoir, quand on appuie sur un bouton, bah, pouvoir piloter ces différents objets. Je trouvais l'idée intéressante, le prix est pas très cher. Maintenant, voilà, est-ce que ça vaut vraiment l'achat? Je ne sais pas, je me pose la question.
Moi, je pense qu'il faut que tu le prennes, ne serait-ce que pour nous faire un retour dans ta café.
Et justement, j'attends de voir la fin et puis en fonction de ce qui se passe. Ils ont fondé le projet, c'est un projet Indiegogo. Après, il y a pas mal de partenariats qu'ils sont en train de faire, donc on va voir ce qui va se passer.
Intéressant.
Par contre, j'ai backé un autre projet qui s'appelle World of Yoho, qui est un jeu connecté.
Ça va te plaire, Guillaume.
Donc c'est les éditions Volumique qui font ça sous une autre marque. Le principe c'est qu'on a une carte papier avec différentes îles et son smartphone va jouer le rôle d'un bateau. Et donc on va se balader en déplaçant son smartphone de case en case et le smartphone va afficher la partie animée et va savoir où il se trouve sur la carte papier. Il y a une astuce qui est faite en utilisant la caméra, les déplacements, le gyroscope, etc., l'accéléromètre, pour justement savoir à quel endroit on est sur la carte, où sont les autres, et du coup pouvoir faire des combats entre bateaux pirates d'un smartphone à l'autre.
Ça fait rêver
C'est
quand même.
vraiment très astucieux. Et si vous ne connaissez pas les éditions Volumique, je vous invite à regarder les autres projets qu'ils font. C'est Étienne Mineur qui gère ça. Et c'est à chaque fois super intéressant. Ils ont breveté un projet de cartes, donc des cartes à jouer classiques, mais qui sont reconnues par l'iPhone, enfin par n'importe quel touch. Et le principe, c'est que c'est une encre métallique qui est mise sur la carte, et au moment où comme la carte est en papier, elle conduit l'électricité, et au moment où on met la carte sur l'iPhone, comme il y a trois points d'encre, ça fait trois touches, et la carte est reconnue, et pour savoir la nature de la carte, c'est l'angle que font les trois points qui permet de savoir si c'est la carte 1, 2, 3 ou 4.
C'est super malin quand même. Guillaume, t'avais vu ces jeux passer là,
Non, pas
ces
du tout, mais
projets?
c'est vrai que ça a l'air super sympa, ouais, effectivement. Et puis que le smartphone arrive à se repérer sur la carte et tout, l'interaction entre les deux est là, franchement rigolote, ouais.
Et je trouve ça presque plus intéressant que les utilisations qu'on peut faire de surface tactile avec des pions classiques. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment sympa. Merci beaucoup, je crois qu'on arrive à la fin de ce long épisode de Tech Café. Vous avez vraiment plein de liens que vous pouvez aller consulter dans les notes de l'émission. Un petit, d'ailleurs, je souligne une petite innovation qui mérite toujours d'être soulignée sur iOS, sur l'application podcast native d'Apple. Vous avez désormais les notes qui sont lisibles au format classiquement HTML. Donc si vous nous écoutez sur votre iPhone ou iPad, vous avez tous les liens normalement qu'on a dans les notes des émissions qui sont disponibles et qui sont cliquables directement sur votre appareil. C'est toujours ça en plus pour les podcasts. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce sixième épisode de Tech Café. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet? Évacuons les sujets qui fâchent.
Mais bien sûr que non.
Et ben voilà, comme ça s'est réglé. Et Jean-Philippe, pour ta part, je suis sûr qu'on peut te retrouver quelque part, notamment si on veut essayer de construire une table tactile, en tout cas interactive, si on veut en savoir plus sur les miroirs connectés ou de manière générale sur Sarah. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Eh ben, vous pouvez aller sur mon site qui est encause.net, encause.net, ou tout bêtement JP Encause sur les réseaux sociaux. J'essaye de garder toujours le même pseudo.
Merci beaucoup Jean-Philippe de ta participation en tout cas à Tech
Merci.
Café. C'est agréable aussi de voir des visions complémentaires à ce qu'on peut avoir l'habitude d'aborder ensemble. Moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Twitter, sur Google+, un peu partout où vous le souhaitez. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous le savez aussi, ce qui est très important pour nous, c'est les petites notations et les petites notes pardon et les petits commentaires sur iTunes. Là encore, ne m'en voulez pas, c'est pas pour être Apple fanboy, mais malheureusement on n'a pas trouvé de catalogue qui puisse remplacer aujourd'hui iTunes pour les podcasts. Donc n'hésitez pas à aller déposer un petit commentaire, ça nous aide beaucoup pour les classements, la visibilité. Et puis merci beaucoup de votre fidélité. On vous dit rendez-vous à l'épisode 7 dans environ 15 jours. Ciao ciao, à bientôt.